La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Derrière l'hôtel, un phare comme un grand couteau. Un phare dont la langue lèche la nuit. Soleil dans la chambre d'hôtel. Les arbres immobiles. Des bungalows disséminés.
Architecture. Réouverture du cinéma Le Palace à Bruxelles.
Alors, les lieux ont été rachetés par la communauté française. Le premier usage a été de placer le Théâtre National pendant le moment, la période où la tour Martigny de Rogier était démolie et que Olivier Basta et Lescaut construisaient le nouveau théâtre du boulevard Jacquemin. Donc pendant 2 ans, faille que vaille, le Théâtre National s'est débrouillé.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Vous
allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Ce lieu a quelque chose de magique puisqu'il raconte presque à lui seul, d'une part, la création des boulevards, du percement par Jules Anspach, et l'assainissement de l'ancienne grande île Saint-Géry. Et puis presque toute l'histoire du cinéma, puisqu'après un premier bâtiment construit par Albert Dumont en 1881, Charles Pathé de la société Pathé Frères a fait l'acquisition de l'immeuble, dont la forme, je ne me suis jamais expliqué en cadastral, d'où elle vient, mais en fait elle vient de l'opération immobilière qui est de toute la reconstruction depuis de Brouckère jusqu'au bout d'immeubles de prestige avec des concours de façade et des choses pareilles. Puis ça forme en Y 3 rues, l'ancienne rue des Pierres avec le pont des Pierres disparu, devenu la petite rue Borgval, et la lumière qu'on voit à l'autre coin, c'est la rue, le débouché sur la rue Van Pratt. Et donc après le bâtiment d'Albert Dumont, qui était un grand hôtel de vente, la société Pathé Frères achète, charge pour la messe de la construction du plus grand cinéma bruxellois à l'époque. Je crois qu'il y avait quand même plus de 80 cinémas en activité. Un cinéma naissant qui n'était qu'une attraction parmi d'autres.
Richard évoque le début des années 1913 avec de la musique.
Fosse d'orchestre ici, des dessous machinés, une scène avec possibilité d'avoir des décors et entre des danseuses de French Cancan et un prestidigitateur, on projetait des petits films de 10 minutes qui vibraient sur un petit écran.
La ville était complètement différente, la circulation dans la ville était différente, la lumière... Également, c'était vraiment un pôle d'attraction tout à fait particulier et un rapport à la ville qui était différent. La sortie en ville, comme on peut trouver encore peut-être dans des plus petites villes comme Liège ou Namur, où on peut se dire, voilà, je vais passer une après-midi, je me balade en ville, ça se faisait beaucoup et le cinéma était associé aussi pour les gens à toute une après-midi, un programme complet d'activités. Donc on descendait en ville, on prenait le tram, on allait dans certains magasins, on était accueillis d'une certaine façon, et le cinéma faisait partie d'un tout, avec aller au Bouquet Romain, aller manger une glace ou dans un salon de thé particulier. Donc c'était tout un ensemble très très magnifié et très très cérémoniel comme ça.
Architecture. Réouverture du cinéma Le Palace à Bruxelles. Avec Olivier Rey, Isabelle Biver, Luc Dardenne et les voix de Alain Richard, Henriette Michaud, Henri Simons et Fernand Chirène, 1920-2001.
Essayer de pousser aussi les animations avec non seulement évidemment des présentations, des avant-premières en présence de personnalités et de pointures, mais aussi peut-être d'aller beaucoup plus loin ou de faire des présentations en présence de monteurs, en présence de techniciens du cinéma ou de métiers cachés qui permettront à chacun de découvrir une autre facette et d'échanger directement avec les faiseurs.
Architecture. Réouverture du cinéma Le Palace à Bruxelles, par Thierry Genico.
Alors c'est très gai, je dis toute l'histoire du cinéma, une partie de ces colonnes qui supportent une salle qui n'a plus rien de la salle à l'italienne de Polames des années 20, donc de 1913.
Alain Richard.
Sont toujours les colonnes de 1913. Et en 1950, l'événement majeur dans toutes les transformations et mutations de ce que je viens d'appeler une attraction, le cinéma, à ce qui est devenu le 7e art, voilà, un art d'expression, une forme d'expression à part entière dans les années 50. La même société Pathé décide de remplacer sa salle à l'italienne par ce qu'on appelle une vraie salle de cinéma comme on en a connu jusqu'aux années 70 et dont on découvre toujours le gradin du balcon. Donc à l'époque, il y avait un grand parterre, un grand balcon dessus ouvert sur un plus grand écran. Très étonnamment, quand même, très vite démodé par l'arrivée du cinémascope, mais en gros ce cinéma a fonctionné de 1950 alors au milieu des années 70 où comme beaucoup de ce type d'exploitation a périclité un peu la télévision, le besoin d'autres loisirs, voilà. On a alors vendu ici des machines à laver, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et puis ce cinéma a un peu renaît de ses cendres sous l'impulsion d'un groupe, une petite ASBL qui s'appelait Kladaradatch, des gens motivés par le cinéma et là, une forme de diversité culturelle et d'échanges autour un peu de la fête, la rencontre, boire un coup, voir un film. Pendant quelques années, 2 ans et demi, je pense, jusqu'à ce qu'il tombe en faillite, que l'investisseur cherche à finalement revendre le lieu après des projets infructueux et que la communauté française le rachète. Puis après le départ du National, initie d'abord un appel à projet remporté par une ASBL créée pour l'occasion qui s'appelle l'ASBL Le Palace, ça ne s'invente pas, dont le projet était de réinstaller un pôle cinéma qui soit un lieu d'échange multiculturel, avec un pôle événementiel, avec un pôle éducatif, et bien sûr un pôle cinéma, on qualifiera d'art et d'essai, ou en tout cas cinéma d'auteur, 4 salles, dont 3 préexistaient d'une manière ou d'une autre, dans les transformations de Kladaradatch, et une 4e a été créée toute pièce dans voilà, cet ensemble que vous visitez, et pour lequel Henriette m'a donc beaucoup aidé à faire la corrélation entre la lumière et l'espace.
Isabelle Biver, un petit mot sur l'architecte Paul Ames.
Paul Ames, personnellement, c'est un architecte que j'aime assez. Je suis assez souvent amenée à parler d'architecture dans mon travail de guide conférencière et d'art nouveau et d'art déco, vu que c'est des styles très très représentés à Bruxelles et très intéressants, et aussi convoquer plus l'art déco dans les cinémas. Ames, c'est un architecte peu connu de l'art nouveau, de la deuxième génération de l'art nouveau, et que j'irais pour moi, c'est l'architecte, sa forme, c'est l'ovale. C'est vraiment comme ça, moi, que je le reconnais. Donc c'est quelqu'un qui s'est spécialisé à un moment, à l'initiative de Pathé aussi, dans beaucoup de théâtres et de cinéma, dont il reste très peu d'exemples, quasiment que le Pathé Palace, qui a fait aussi des lieux de plaisir, restaurants, comme on a connu l'Ultime Hallucinatie, par exemple. Près de chez moi, en fait, il a sa maison sur un coin, maison assez imposante dans laquelle vivent une partie de ses descendants d'ailleurs. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est inspiré vraiment de la sécession viennoise et dans un style assez sobre mais que je trouve assez raffiné. Voilà, moi je l'aime beaucoup, Paul Ames. Une personnalité discrète mais qui a toute son importance pour mon domaine des cinémas et pour l'architecture à Bruxelles. Il a fait aussi deux maisons jumelles en Square Guy d'Arezzo dans le quartier de l'avenue Molière. Voilà, des tas de petits exemples comme ça dans Bruxelles, de bâtiments qui ne sont pas aussi flamboyants que des Horta ou des Ancars, mais qui ont tout leur charme.
Réouverture du cinéma Le Palace à Bruxelles. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
C'est aussi un lieu dont j'ai voulu que les salles soient au meilleur de leur qualité possible, tout en n'étant pas non plus dans l'excès, mais en essayant d'avoir des salles bien réglées, une acoustique qui tienne la route, une ambiance feutrée et chaleureuse, dans laquelle on a du plaisir à s'installer et à regarder le film, du début à la fin, dans des conditions de confort. Comme à la maison, sauf qu'on est tous ensemble, donc, et qu'on a un moment de partage et un moment tous ensemble pour par la suite pouvoir dans nos espaces en parler, partager, communier, débattre. On aime, on n'aime pas, c'est nul, c'est bien, je déteste, quel con. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on entend à la sortie d'une salle doit pouvoir s'entendre et se partager dans ce lieu et doit l'animer, le faire vivre.
Olivier Rey, nous avons traversé des espaces d'architecture, de les décrire à vos yeux.
On a traversé en fait la rénovation d'Alain Richard, donc une rénovation qui a été faite en profondeur, vraiment, et dans laquelle on a, je pense, le travail d'Alain a consisté à retirer et à recréer des espaces en créant par le vide, c'est-à-dire en fait en éliminant toute une série de choses qui étaient dans le bâtiment originel, mais qui empêchaient finalement de constater, de voir exactement à quoi ressemble le bâtiment dans sa finalité globale d'aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer de pousser aussi un peu la création et d'avoir dans nos espaces des moments de création ou des moments de partage. On a toute une variété d'espaces, donc il y a évidemment le fleuron qui est le salon à Metz, non le foyer à Metz pour être précis, parce que le salon à Metz c'est l'ultime hallucination, c'est qui est du même auteur. Donc ici c'est le foyer qui est un cœur historique qui est classé, dans lequel on a une série de colonnades, des miroirs et un décor début du siècle. Dans lequel on pourra soit évidemment faire du cocktail et débattre, ou animer, je veux dire animer de manière proactive avec du débat et avec de la rencontre, comme toujours, dans la poursuite évidemment de ce qu'on aura fait dans nos salles.
Je joue jamais du piano et j'écoute jamais de musique. Jamais de musique. J'aime que le silence, hein. J'aime pas la musique. Comme les gens. La musique, c'est le silence du pauvre.
Isabelle Biver, dans cette émission, nous pouvons entendre la voix de Fernand Chirène, 1920-2001.
Chirène, lorsque vous êtes à votre piano, ici, au musée du cinéma, est-ce que vous regardez quand même intensément l'image ?
Tout le temps. Je ne regarde que l'image, pas mes doigts. Mes doigts jouent tout seuls. Je regarde l'image. Je vis la situation avec passion, comme ça je l'ai vu, et mes doigts jouent tout seuls, comme...
Oui. C'est vraiment un don, hein?
C'est comme ça, c'est un don.
Qui est-il à vos yeux?
C'est un don.
Pour moi, Chirène, sans réfléchir et sans mentir, je pense tout de suite à Rosas, évidemment, et à Teresa de Kersmaeker. Je pense évidemment au cinéma. Aussi, puisqu'il était très lié, si je me rappelle bien, à Jacques Ledoux. puisque j'ai fait mon mémoire sur Jacques Ledoux, sur la cinéphilie à travers Jacques Ledoux et Serge Danet. Donc c'est un de ces personnages uniques, très peu connus du grand public, mais tellement connus de toute une série de spécialistes, donc qui accompagnaient les séances de l'écran du séminaire, si je me rappelle bien.
Dans ce métier-là, je ne suis que le meilleur du monde. Dans mes cours de rythme, chez Intérêt, je ne suis pas le meilleur, je suis le seul. Parce que c'est moi qui ai créé ce cours. Oui, c'est moi, je n'ai pas créé le piano, je n'ai pas créé les films. Hein.
Cette pratique de pianiste qui accompagnait les films muets, on pourrait l'imaginer en 1913 à l'ouverture du Palace.
Si ce n'est que c'était de bien plus grande envergure au Palace, parce que là, on ne se trouve pas dans un petit cinéma de quartier comme on pouvait en trouver un peu partout, dans les Marolles ou ailleurs. Là, on se trouve vraiment dans une fosse d'orchestre énorme qui pouvait aller jusqu'à 40 musiciens. Donc là, un pianiste, oui, mais dans un ensemble bien plus important, qui s'apparente plus à un petit orchestre symphonique, en fait, avec peut-être un orgue de cinéma aussi, et tout un dispositif spécifique au cinéma, de tout un ensemble de sons qui s'apparente vraiment plus au théâtre, en fait, au théâtre cinématographique et à la fosse de l'opéra, quoi.
C'est épuisant, hein, mais ce soir, je devrais donner deux fois une heure et demie, je devrais jouer comme ça. Oui, une fois seul dans le noir, hein, oui. Avec des spectateurs. Hein, ces spectateurs, je les aime pas. Non, ils appartiennent à une sorte de race. Que je déteste, les vrais connaisseurs. Le vrai connaisseur, c'est quelqu'un qui ne pense que par soustraction. Il ne connaît que la soustraction. Le vrai connaisseur du poulet ne mange que le croupion. Le vrai connaisseur de la truite ne mange que les joues. Le vrai connaisseur de la musique n'écoute que Jean-Sébastien Bach. Et le vrai connaisseur de Jean-Sébastien Bach n'écoute que l'air de la fugue. Il pense par soustraction. Eh bien, au cinéma, c'est un public de vrais connaisseurs.
Un axe de développement vers la multiculturalité, essayer d'avoir effectivement dans nos cinémas du débat et de l'échange une place liée à la femme aussi.
Luc Dardenne.
L'attention portée aux cinéastes femmes devra être importante, bien sûr, et surtout dans les invitations. Parce qu'on ne va pas seulement inviter les réalisateurs, réalisatrices ou chef-op, mais aussi des musiciens qui ont fait la musique du film, des gens qui ont fait le son. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les équipes de cinéma. Donc on va effectivement faire attention à ce que le nombre de... Il y a des femmes qui viennent et qui parlent. Et puis dans les scénaristes, on a quelques femmes scénaristes en Belgique. Donc voilà, et en France, évidemment, en Europe. Et c'est vrai qu'on voit que le cinéma, qui est un art... C'est un art particulier où les hommes ont une place importante, hein, le côté entreprise, industrie. C'est un lourd héritage masculin. Et donc, mais enfin, il y a des cinéastes femmes, et pas n'importe lesquelles, hein, et des grandes. Donc, mais c'est sûr que. Bon, mais on n'a pas eu le temps de préparer tout ça, mais on aurait eu Jane Campion comme marraine de la salle, ça aurait été formidable, hein, du complexe, ça aurait été formidable. On n'a pas eu le temps de préparer, ça va. Il y a tout le temps des imprévus quand vous construisez, enfin on rénove, mais enfin, quand même c'est une construction aussi neuve. Et il y a tout le temps des imprévus, tout le temps. C'est terrible, pire qu'un film. Dans un film on en a, mais dans la construction d'un bâtiment, c'est incroyable.
Oui, Luc Dardenne, vous avez assisté au travail de...
L'ASBL Le Palace s'est constitué autour de l'appel de la communauté française à déposer des projets possibles, viables et intéressants pour le lieu. Et cet ASBL est issu du groupement de Ciné Libre, Cinéart sans doute le meilleur distributeur de films à réessayer sur la Belgique, de la société Les Films du Fleuve, la société de production des Frères Dardenne, de Artemis, dont Patrick Kinney est l'administrateur et qui est un producteur de cinéma. Également, je pense à l'origine un peu du Tax Shelter et de ce genre de choses, et d'une société d'aide, financement et recherche de droits d'auteur pour les producteurs cinéma qui s'appelle Zenap. Ces personnes ont mis leurs compétences en commun pour proposer un programme qui a été celui retenu sur base de critères objectifs par la Fédération Wallonie-Bruxelles au moment de lancer alors un appel à projet d'architecture pour soutenir le projet culturel de Lyon.
Et j'ai vu le projet, la maquette, on l'a voté pour lui, on l'a choisi à l'unanimité. Et on a suivi, enfin moi j'ai suivi comme je pouvais, c'est Olivier Réhin qui a suivi tous les travaux avec Chantal Dassonville et Nathalie Grippa du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Que vous, Alain Richard, avez gagné.
Que nous avons remporté, donc mon atelier d'architecture concourait, si j'ose dire, face à des concurrents qui pour la plupart étaient aussi des amis, mais enfin voilà, c'était un peu... C'est un peu notre lot quotidien en marché public. Ce sont toujours des amis.
On a dû faire des choix, réduire certains postes. Voilà. Vous savez, quand on rénove un cinéma en France, c'est 20 millions. Ici, on le fait avec 10. Tout le monde dit c'est beaucoup. Moi, je trouve pas. Il y aura encore eu 5 millions. Je crois qu'on aurait pu encore faire autre chose. Mais bon, c'est comme ça.
Un lieu de débat, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu... Multiculturel, c'est un lieu d'éducation.
Luc Dardenne, Olivier Rey me parle de Nicolas.
Gilson.
C'est qui ?
Le programmateur.
Pour le documentaire, Nicolas est en train de développer des partenariats avec une initiative qui s'appelle Le Petit Ciné, qui est une initiative pilotée par Pauline David et que je soutiens tout à fait pour que ça se développe et que ça se mette bien en place, que ce soit un univers de rendez-vous autour du documentaire.
Faire toute la programmation des films qui vont sortir au Palace à partir de 28 février.
Est évoqué aussi par Olivier Rey la place du documentaire.
Oui, je pense effectivement que... Bon, je ne dis pas que le documentaire n'a plus de place à la télévision, mais moins, en tous les cas. Ou alors ce sont des documentaires assez formatés. Et on aimerait effectivement pouvoir, dans la programmation, montrer des documentaires. Belges et étrangers, évidemment, pas seulement belges. Mais c'est vrai que ça aura une place, une vraie place. Mais le tout, c'est qu'ils vont voir, le programmateur va voir en fonction de l'expérience, parce qu'on commence, enfin on va commencer, voir à quelle heure il faut le mettre dans la semaine, une fois, deux fois, trois fois, on va un peu voir, ça on ne sait pas encore.
Les courts-métrages des festivals, le FIF à Namur, avec lequel on aurait des projections et des productions décalées.
Court-métrage aussi, oui. Oui, c'est bien le court-métrage, parce que les jeunes cinéastes, ils commencent, à 90%, ils commencent avec des courts-métrages. Il faut les montrer, il faut qu'ils aient une réaction du public, qui voit ce que c'est d'être critiqué ou d'être au contraire louangé. Bon, ça dépend, mais c'est bien, je crois que c'est bien. Puis ça montre, ça attire aussi les jeunes qui font du cinéma, qui veulent en faire, qui viennent. Il y a beaucoup d'écoles de cinéma chez nous, de techniciens, de réalisation. Donc c'est bien qu'il y ait des rendez-vous hebdomadaires pour le court-métrage.
Créer un rendez-vous autour du court-métrage avec, évidemment, les gens qui sont actifs aujourd'hui dans le milieu, que je pense à la SBL Un Soir Un Grain, qui fait un travail fantastique avec son festival et avec l'agence qu'ils ont mis en place. Tous les acteurs, en général, on va les rechercher pour essayer de compiler et de mettre en place une séance. Dans mon rêve, elle est hebdomadaire, mais je pense que ça, malheureusement, on n'y arrivera pas. Mais si on peut faire un rendez-vous mensuel autour du cours, une soirée, et aussi en partenariat avec les producteurs qui sont... Tout ça, Nicolas est en train de le développer, Nicolas est en train de compiler en fait toutes les différentes informations de manière à créer ce rendez-vous autour du cours et créer... le et les rendez-vous vis-à-vis du documentaire.
Un lieu qui renaît dans sa fonction d'origine, ça c'est très fort. Bon voilà, qu'il y a plein de choses qui bougent dans le centre, notamment la présence du piétonnier. Voilà, après, C'est vrai qu'il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas été aussi optimiste par rapport à la fréquentation cinématographique, mais elle n'est pas en baisse aussi fortement qu'il y a 10 ans quand j'ai écrit mon livre. Ça bouge, ça se modifie. Je vois qu'il y a toutes sortes de démarches aussi en Europe, par exemple, et qu'il y a des cinémas qui naissent et qu'il y a des nouvelles formes de convivialité aussi qui naissent. Maintenant, il faut pouvoir les investir, il faut pouvoir les imaginer, il faut être en phase avec les gens, il faut avoir des moyens, pas seulement financiers, humains, des idées, beaucoup de créativité. Et il faut aussi un contexte qui est un contexte qui dépasse l'équipe du Palace, qui est celui de la distribution, des budgets, de l'envie, de l'ambition. Et c'est pas forcément de l'argent, de l'ambition. Voilà. Et il y a aussi, je pense, ces conditions de mobilité là-dedans, et l'architecture aussi. Il y a beaucoup de communication, évidemment. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais je ne sais pas. Voilà, j'attends de voir, comme au cinéma.
Par rapport à du cloisonnement purement fonctionnel des couloirs, comment aller aux toilettes, comment aller à la salle 2, comment aller à la salle 1, on a fait le vide jusque dans le bas du foyer. Et donc cet espace est assez compliqué à maîtriser sur des plans, même sur des maquettes. Et donc avec Henriette, les questionnements ont toujours été, mais qu'est-ce qu'on voit là? Par où est-ce que la lumière naturelle entre? Est-ce qu'on doit donner de l'importance au plafond, plutôt à la colonnade, plutôt au mur? On a souhaité dans le foyer ne pas polluer par des appareils d'éclairage ajoutés à tout endroit. Et par exemple, la création de ce grand mât est une idée qui est au départ l'idée d'Henriette, de se dire rassemblons en un seul point pour le foyer toutes les possibilités d'éclairage.
Derrière l'autel, un phare comme un grand couteau. Un phare dont la langue lèche la nuit. Soleil dans la chambre d'hôtel. Les arbres immobiles. Des bungalows disséminés.
Mais les vrais projecteurs et le potentiel du mât d'envoyer de la lumière sur ce grand mur blanc qui peut servir de cinquième écran ou de focaliser sur des points événementiels qui pourraient être des tables là en bas, est une manière de faire interagir l'éclairage dans la résolution des fonctions avec les qualités d'un espace qui ne permettent pas tout et méritent davantage que derrière la colonnade qu'on voit peinte en crème dans les tons 1913 d'origine va se trouver la billetterie et son plafond où on voit différents sockets, toute une série, une grosse cinquantaine, va être ce prétexte à l'accrochage des lampes imaginées, des plafonniers imaginés par les étudiants des écoles de design. Je dois associer Mathilde Thierry, architecte à la communauté française, qui est à l'origine de l'idée qu'on a fait rebondir comme ça.
Et Olivier Rey dit que en sortant de la salle, on ne sort pas du cinéma, on reste...
Oui, effectivement, quand vous sortirez de la salle, vous retombez dans l'espace collectif. Évidemment, vous pouvez avoir envie de sortir parce que vous avez quelque chose à faire. Mais en même temps, vous pouvez rester, et c'est vrai. L'idéal, c'est encore d'aller voir un film après, évidemment. Mais on peut rester pour manger, pour boire un verre, pour discuter. Voilà, on ne va pas forcer la consommation. Mais je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à ça. À ce que les gens se sentent chez eux, là, dans ce cinéma. Voilà. Et que s'ils ont envie de voir quelqu'un à 9h du matin sans voir un film, ils donnent rendez-vous chez nous. Et puis s'ils ont envie de rester jusqu'à minuit en buvant un coca ou une bière, ils le font.
Toutes les sorties renvoient vers l'intérieur du complexe. Donc, contrairement à un cinéma, je dirais, en tout cas, certains, les grands cinémas, on va dire, de consommation commerciale, où on arrive, on s'installe dans la salle et puis on est rejeté vers l'extérieur. Ici, au Palace, on arrive, on s'installe dans la salle et puis on est rejeté vers l'intérieur du complexe. Donc, avec l'idée d'y rester, d'y flâner, de trouver autre chose et de continuer à... Alors ce sera peut-être un café au kiosque, ou ça peut être d'aller manger en bas, ou de flâner parce qu'il y a une expo dans un des lieux. Voilà, d'y rester, de venir au palace et de s'y sentir bien et d'avoir envie d'y rester. Avec mon pôle Eureka, je suis aussi en train de penser, de réfléchir, et on le fera assez rapidement, de mettre en place des brunchs cinéma, de mettre aussi en place des garderies dans lesquelles les parents peuvent aller au cinéma pendant que leurs enfants sont retenus dans des ateliers.
Olivier Rey, je dois rencontrer Luc Dardenne. Un mot sur la raison de cette interview que je vais faire de lui. Pourquoi, à vos yeux?
Parce qu'il porte le projet depuis des années, et qu'il est le président de notre ASBL, et que c'est lui le mentor, celui qui pousse, celui qui est... Voilà, je pense que c'est logique de l'entendre.
Olivier Rey me dit que vous êtes le mentor.
Non, moi je suis simplement la personne qui, au départ, avec Patrick Quinet, Diane Dubois, Nicole Labouvry, avons lancé le projet de construire dans ce lieu 4 salles de cinéma, d'avoir un restaurant et un bar qui permettent aux gens de parler après les films, de se rencontrer, ou avant les films, et de faire un lieu de vie culturel. Voilà, parce que je crois qu'on voit un film deux fois. On le voit quand on est dans la salle et puis on le voit quand on en parle. Et je crois que c'est bien d'avoir cet espace autour des salles.
Et peut-être trois fois quand on en rêve.
Exactement, oui, bien sûr.
Un lieu dans lequel on va accueillir au départ une expo sur le travail justement architectural dans sa globalité.
Et quand vous dites nouvelle forme de convivialité, Isabelle Biver, vous entendez ?
Toutes sortes de façons d'aller au cinéma qui aujourd'hui, il y a à réinvestir là-dedans. Voilà. Les gens attendent beaucoup ça. Par exemple, si vous allez dans une ville comme Londres, il y a toutes sortes de modes de nouvelles. Bon, le cinéma est très cher, hein, par ailleurs, mais les gens en ont vraiment pour leur argent, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de dispositifs, que ce soit des dispositifs assez modestes, comme ceux qu'on appelle les love seats, donc où on peut se mettre des sièges conçus pour deux personnes, où on est proche sans être séparé par un accoudoir. Vous avez des cinémas où on peut louer des fauteuils club immenses, où on a des fauteuils encore plus beaux qu'à la maison, exactement comme dans les années 30 ou 50, où les gens allaient chercher un luxe qu'ils n'avaient pas chez eux, ou comme au palace, où les gens ont trouvé pour la première fois des toilettes avec chasse d'eau, alors que dans leur appartement à Bruxelles, ils allaient encore dans les toilettes à la cour avec d'autres familles pour un immeuble de peut-être 40 personnes. Donc on peut organiser aussi des moments privatifs, on peut programmer son propre film maintenant dans certains cinémas, dans des petites salles, on peut inviter ses amis, on peut inviter sa petite amie à un drink, à une soirée spéciale, enfin mieux qu'un drink, une soirée vraiment d'amoureux avec champagne, zakouski, etc. Voilà, il y a par exemple simplement au Rex à Paris, je suis allée ce Noël-ci pour l'anniversaire de mon fils, voir la fée des eaux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, où on parie vraiment sur le merveilleux, le tout simplement merveilleux. Donc c'est le Disney de fin d'année, avant lequel passe tout un spectacle qui dure au moins 20 minutes, qui est un espèce de feu d'artifice, mais d'eau. Et donc d'un coup la salle s'anime de toutes sortes de lumières, de bulles, de boules à facettes, etc. Et il y a un spectacle de fontaine d'eau, mais tout à fait extraordinaire, qui dure 20 minutes. Et tout le monde est complètement transporté, bouche bée. Moi j'avais les larmes aux yeux, ça dure plus de 20 minutes, avec des animations aussi visuelles qui ont un lien avec le film. Et tout ça dans cette salle atmosphérique qui imite un décor à l'extérieur. Donc déjà rien que la salle, c'est tout à fait incroyable. Et puis on a ce spectacle et on se dit, voilà, des gens qui font confiance au pari du merveilleux, de l'émerveillement dans un monde où on a tout comme ça, il suffit de taper sur deux boutons et on a accès à tout, aux paroles, à l'animation, mais ça reste incroyable. Et les enfants y vont, mais des adultes y vont seuls aussi, rien que pour voir la féerie des eaux chaque année. Voilà, c'est une féerie. Je crois qu'il faut remettre du merveilleux dans la vie des gens, ça, ce sera toujours nécessaire. Et aucun internet, rien ne pourra jamais remplacer ça, je pense.
Il y a un public qui va déjà voir les films, mais je pense que le public peut être augmenté sensiblement, et aussi montrer des films qui ne viennent pas jusqu'ici, aujourd'hui, et qu'il faut aller à Paris pour les voir.
Ce qu'on appelait dans le temps du cinéma d'art et d'essai.
Oui, du cinéma d'art et d'essai, mais on peut considérer que, je ne sais pas, Del Toro qui sort la forme de l'eau, la The Shape of Water, ou bien, je ne sais pas, Gravity, par exemple. Ce sont des films où il y a un grand travail, un vrai regard d'auteur. Mais c'est aussi des films, effectivement, comme ce jeune cinéaste tunisien qui vient de faire La Belle et la Meute. Voilà, c'est des films qui n'ont pas un grand succès et qui pourtant ont une grande qualité cinéma. Il y a du vrai cinéma dans ce film. Ben là, nous, au lieu qu'il reste une semaine à l'affiche à 5 séances et puis à une séance ou deux, nous, on le tiendra par exemple 3 semaines et puis on le grattera encore à une ou deux séances. Voilà, mais ça, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du programmateur, mais c'est certain qu'on va essayer d'offrir ce cinéma-là qu'on ne voit plus ou plus assez longtemps.
Et nous sommes au Palace, et le Palace a toujours existé en tant que non-Palace depuis sa fondation, au début du XXe siècle.
Oui, ça a toujours été du Palace.
Très belle projection. Voilà, ça c'est le plus important, évidemment. Mais je pense aussi que la grandeur des salles, bon, il y a la grande salle de 360 places, mais avec les autres salles qui ont des grandeurs de manière... Enfin, ça, on va pouvoir jouer vraiment avec le public. On va faire une vision, voilà, on a une classe qui vient à 9h du matin, ou deux classes, 50 élèves, on a la petite salle de 64 places. On garde les autres pour faire d'autres projections, une vision de presse. On va pouvoir jouer vraiment, et surtout garder des films dans la petite salle, sans perdre trop d'argent, parce que quand même, on doit gérer cette affaire. Hein. Il ne s'agit pas de faire des déficits. Donc, on va pouvoir, grâce à ce nombre de places différentes, cette capacité différente des salles, on va pouvoir garder des films plus longtemps. Même si on fait 30 personnes pour un film, c'est rien. La salle en fait 60, ben, ça va assez bien. On a quand même fait 50%.
Et quand il y a beaucoup d'applaudissements, comme ça, alors ça me ravit. J'aime les éloges et les bravos.
Le principe, c'est que le Palace ne sera jamais un lieu uniquement de festival. C'est un lieu qui accueillera des soirées en lien avec les festivals.
Même quand ils ne sont pas sincères. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Inventer une histoire. Allez, inventer.
De doux mélange entre du grand public et du cinéma plus pointu, en espérant évidemment que ce doux mélange se passe d'une belle manière, dans le sens où par apprentissage, par envie, par l'expérience, on soit petit à petit amené à gratter de plus en plus le fond du bac, comme quand on allait à la médiathèque dans mon jeune temps.
Rien que votre histoire.
Inventer une histoire où il faut mettre du sentiment. Hein, parce qu'il y a deux sortes de musique dans les films muets. Ah oui, il faut toujours de la musique, hein, parce que les gens ne supportent pas le silence. Hein. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose.
On attend beaucoup, effectivement, que le piétonnier se développe et que le piétonnier permette, effectivement, au cœur de Bruxelles de retrouver ou de trouver tout simplement une âme et une fonction de ville, mais une ville tournée, évidemment, vers les habitants, parce que je pense que ce dont un cinéma a besoin le plus, c'est d'habitants, puisque sans habitants, il n'y a pas de fréquentation.
Alors, dans les autres films, il y a la parole, les bruits, et pour les grands sentiments, on ajoute de la musique, de la vraie musique, alors qui vient.
Un loisir qu'on fait dans un environ d'une vingtaine de kilomètres, donc je pense qu'on touche ici les 19 communes, on touche peut-être un petit peu au Brabant flamand et au Brabant wallon, mais la majorité de notre fréquentation viendra de Bruxelles-Ville et viendra des gens qui ont l'habitude d'être dans ce quartier-ci et qui le connaissent déjà.
Ici, il faut la chose qui meuble, hein, et de temps en temps, pour les grands sentiments, il faut mettre de la sauce.
On va se tourner vers les publics néerlandophones qui habitent quand même fort le quartier d'Ansart et le long du canal.
Il n'y a pas trois mesures qui peuvent se dégager là, sur le lieu où vous habitez.
Là, j'attends le tramway, hein, j'attends le bus, hein, hein, et il y a les voitures qui passent, et le bus va me conduire au marché.
souviens, dans mon enfance, le centre était truffé de cinémas. Et puis les cinémas ont fermé, puis ils sont basés en périphérie, dans des grands complexes. Puis il y a eu des petites initiatives comme le Styx à Bruxelles, des choses comme ça. Ce n'est pas l'éternel combat entre...
Cinéma art et essai et industrie, ou si entre cinéma et télévision, maintenant cinéma et plateforme avec les smartphones et les autres petits écrans, c'est certain que c'est un combat perpétuel, mais chaque fois le cinéma, la salle de cinéma, en sort quand même vainqueur. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est notre espoir, peut-être on se trompe, hein, mais je crois qu'avoir dans le centre de Bruxelles des salles de cinéma avec un restaurant et un bar, un lieu de vie, il n'y a personne qui a ça.
Luc Berthel.
Et nous, chez nous, quand on fait une première, une avant-première d'un film, ça ira de soi qu'après, les gens restent. Oui. Moi, c'est ça dont je rêve. Bon, et puis tout le travail éducatif, parce qu'on a beaucoup d'écoles à Bruxelles, ville, et à Bruxelles en général, mais dans les 19 régions, mais à Bruxelles, ville, et il faut faire un vrai travail avec les écoles primaires et secondaires. Et ça, à partir de 9h du matin, nous passons des films en liaison avec les écoles.
Le mobilier va s'installer, mais on voit que par rapport à l'entrée principale de Priens-Spack, la salle de Paul-Ames s'ouvrait en deux ailes. On entrait dans la salle italienne par un angle. D'un côté, sa colonnade est restée intacte et on va placer trois objets signifiants en dessous. Un bar pour les événements, accueillir ici des foules après des avant-premières ou des événements particuliers. La billetterie au rez-de-chaussée, un peu en même temps un centre d'accueil. Et une confiserie en haut, un peu un kiosque qui offre de multiples services aux gens qui souhaitent flâner un peu avant ou après une séance, prendre un café, mais aussi lire la presse ou ce genre de choses. Trois objets typés. De l'autre côté, la colonnade avait disparu et on a un objet unitaire, cette très très grande tour, qui a aussi été un long moment de questionnement sur la manière de l'éclairer pour qu'en fonction des activités, interagisse une série de lampes. On voit aussi de temps en temps un vitrage remplacé par une intervention artistique de Pierre Toby. Là aussi, la manière de positionner, pour ainsi dire, chaque plafonnier, d'abord de choisir dans cet endroit des plafonniers par rapport à d'autres ou des choses pareilles, a été très important.
Alain Richard.
Et donc, ce qui a de gai et de très utile à, comment dire, à l'opération de conception architecturale quand on en est à ce point à re-questionner tout avec l'éclairage, c'est que, comme je le disais, ben, tout l'espace est re-questionné et parfois des raccords, des replis pour que les choses se lisent, gardent leur autonomie, soient correctement hiérarchisées, soient réinterrogées.
Et donc à cette époque, on n'est pas encore tout à fait habitué à s'installer, regarder un film. C'est un peu la même évolution qu'à l'opéra, où il a fallu attendre des conditions techniques, mais aussi des conceptions de l'opéra qui faisaient qu'on se consacrait à un spectacle plutôt que se regarder les uns les autres, papoter, appeler sa bonne au paradis, etc. Voilà, donc oui, à rassembler des publics différents, mais tout en respectant leurs besoins, leurs désirs, leurs références culturelles, sociologiques. Alors ici, effectivement, c'est l'ambition du Palace de réussir ce pari qui aujourd'hui n'est plus autant à créer qu'en 1913, évidemment, mais quand même, parce que maintenant la fréquentation des cinémas, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de difficile par rapport au fait de sortir de chez soi, aux questions de sécurité, aux questions de déplacement, qui ne sont plus du tout les mêmes qu'en 1913. En 1913, c'est plutôt une question de réputation, d'image. Aujourd'hui, c'est des questions beaucoup plus concrètes que d'aller dans une salle, et des questions de goût aussi, de programmation. Et les cinémas restent très... très lié, bah oui, à une programmation, à un style de vie aussi. Celui qui va à Kinépolis va rarement au Vendôme ou dans d'autres cinémas. Tout ça est très classé quand même.
Voilà, il y a des questionnements sur la manière d'utiliser l'espace pour éclairer. Il y en a eu partout dans ce petit espace récupéré avec une vue privilégiée sur le boulevard. On se dit que D'abord, on a retrouvé plans et photos d'époque prouvant que les fermetures qui en faisaient un beau window ne dataient que des années 70 et n'étaient pas d'époque. Et on a retrouvé l'esprit d'époque en remettant le pan vitré en arrière. Et donc, l'occasion de créer une lanterne était l'occasion de t'amener une partie de l'éclairage, toujours plus qu'en symbiose avec Henriette. Je pense que l'idée était d'elle qui disait qu'il faut une autre manière de faire. Et l'utilisation du caillebotis, outre le fait qu'il dissimule parfaitement les roofings, permet de loger une série de tubes néons qui, le soir, illuminent d'abord le bow window comme une lanterne et puis laissent entrer l'éclairage à l'intérieur, ce qui évite la pose d'appareils comme celui-là qui va être évacué, bien sûr.
Alain Richard.
L'espace, dans sa complexité, perturbe la lecture du visiteur, et moi j'appelle toujours ça de l'habitant. Et donc, là, Henriette peut être très pointue et dire en gros, ça ne va pas ton truc, regarde là, voilà, parce qu'on n'a pas fait la coupe au bon endroit, le crayon n'a pas été chercher le dernier recoin.
Le palace était extrêmement complexe. Je me souviens, une fois, à une réunion avec Alain, j'ai proposé une suspension, il m'a dit il n'y a pas de plafond là.
Nous sommes. Au palace, c'est la question du cinéma et la question de la lumière. Et quelqu'un qui travaille la lumière est intervenu ici, quelqu'un qui vient de Liège, c'est Henri Michaud, vous la connaissez ?
Oui, oui, elle a fait un bon travail. Mais là, vous allez voir que il y a un endroit où on a fait un concours luminaire et c'est une école qui a fait un éclairage particulier dans un endroit du... Des salles. Sinon, c'est elle, Henriette, qui a fait effectivement l'éclairage, et c'est très bien.
Le plafond est à 5 mètres ou 6 mètres de haut. Ah oui, d'accord, c'est vrai. C'était extrêmement difficile, quoi, vraiment. Donc, de se projeter dans une mise en lumière d'un espace dans lequel on voyage difficilement dans l'imaginaire, c'est compliqué, quoi. Mais moi, j'avais envie de revenir sur l'usage, parce que j'ai l'impression qu'on éclaire toujours quelque chose, il faut savoir comment l'éclairer. Pour moi, c'est l'usage qui guide la mise en lumière. Et induit une atmosphère. Et souvent, ce qui est reconnu, c'est la qualité d'une ambiance, etc. Mais l'ambiance, à mon avis, si elle colle à l'usage, et oui, c'est gagné, quoi.
Ça va servir à quoi ?
Un portrait de vous. Un portrait radiophonique.
Ah, c'est pour la radio.
Isabelle Vivert, vous avez publié en 2009 un ouvrage intitulé « Cinéma de Bruxelles, portrait destin » à la CFC Édition.
Qu'est-ce que ça vous fait ?
Comment ?
Qu'est-ce que ça vous fait, cette idée de portrait ?
Ça fait de la propagande. C'est toujours bon. Quoi ? C'est toujours bon, hein. Toutes les filles sont belles. Tous les seins sont beaux. Toutes les fesses sont belles. Mais moi j'aime les vieilles, hein. Ce sont les vieilles que j'aime. Maintenant, je n'ai jamais eu d'expérience homosexuelle. Et ça me tourne en tête, cette histoire. Je n'ai plus tellement à vivre. Hein. Et je n'aurais pas connu ça. Au fond, ça ne se peut pas. Je trouve ça. J'aime mieux les vieilles de Pacheco que toutes
les jeunes de Parthe.
Parce que L'horrible est infini. Qu'est-ce que la beauté? C'est ce qui se rapproche le plus de la perfection. Et la perfection ne peut être que parfaite. Elle n'a qu'une... Là. Tandis qu'il y a une infinité de façons d'être comme ça, horrible. Là. Ça, c'est fascinant, je trouve. Les centenaires, c'est fascinant. Ça.
15 jeunes filles en fleurs.
En fleurs. Oui, moi je suis gérontophile, hein. je suis pas pédophile hein, du tout. Justement parce que j'aime les enfants. Si jamais il y a un homosexuel qui a envie de moi et qu'il a le rôle masculin, parce qu'autrement c'est pas la peine, hein, je peux avoir le rôle masculin. Il y a des filles pour ça. Hein, qui là? Je ne dirai jamais non. Ça.
Architecture. Réouverture du cinéma Le Palace à Bruxelles. Avec Olivier Rey, Isabelle Biver, Luc Dardenne et les voix de Alain Richard, Henriette Michaud, Henri Simons et Fernand Chirel, 1920-2001. Architecture, réouverture du cinéma Le Palace à Bruxelles, par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles. Cellule Architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.